Carnet de campagne, bonjour. Quatrième étape dans les Deux-Sèvres. En ouverture, je reviens à une initiative que nous avions présentée en 2007 avec un agriculteur du pays mélois, Saint-Vincent-la-Châtre. À cette époque, Étienne Gautreau venait de créer avec 7 autres paysans une association de production de chanvre. Tout remonte à l'année 2005. Nos agriculteurs habitués à une agriculture conventionnelle avaient suivi un stage de formation à la culture et à l'utilisation du chanvre. C'était histoire de diversifier leurs activités et puis il y avait toujours des craintes aussi sur les marchés des céréales. Un premier semis de chanvre fut donc expérimenté à l'été 2005 sur une parcelle de 4 hectares, histoire de voir. Le groupe présenta à des artisans locaux et à des élus sa démarche et les produits issus de cette première récolte en septembre de la même année. 2 mois plus tard, les agriculteurs associés organisaient un premier stage de formation pour les artisans et les particuliers. Et en décembre, le bilan de cette première campagne allait bien au-delà des projections avec une commercialisation totalement réussie. L'expérience fut donc reconduite l'année suivante, cette fois avec un semis de 30 hectares. Nouveau stage de formation l'été 2006, une 50aine de participants de France et même de Belgique. Entre-temps, les producteurs mélois avaient pris soin de présenter leur technique et ses intérêts en matière d'éco-construction à la Chambre des métiers de Parthenay. En 2007, 500 tonnes, ça commence à gonfler, de chanvre brut seront récoltées sur 60 hectares. Une filière nationale est constituée avec dès le départ 60 producteurs de l'ouest de la France qui se sont regroupés. Finalement, d'année en année, la production augmente au point d'atteindre maintenant 85 hectares et l'association obtient une certification nationale sur les enduits chauds chanvre en 2012. Donc cette année, l'association qui est devenue référent national met en place une unité de traitement des déchets issus de cette culture afin de les transformer en source d'énergie. Ces paysans de nouvelle génération méritaient bien ce rappel puisque nous les avions connus quasiment au départ de leur aventure et expérience qui s'est, comme vous l'avez compris, bien confirmée. Et vous pouvez vous informer directement sur leur site chanvre-mélois.com. Notre menu prolonge ce préambule puisqu'il sera très agricole, tout d'abord avec l'association PromHaies que dirige Françoise Cyr. Depuis 89, cette association restaure les haies indispensables à la garantie de la biodiversité. Plus d'un million de plants ont été mis en terre. Les effets seront mesurés par notre invité. Et puis Vincent Jamoneau est aussi un paysan, mais new look, en utilisant une technique qui fait de plus en plus d'adeptes, le BRF, le bois raméal fragmenté. Si vous ne connaissez pas encore cette technique, Vincent s'en expliquera dans la deuxième partie de ses carnets.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Françoise Cyr, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais dire madame la directrice de l'association PromHaies. D'abord, un fait particulier chez vous, en Poitou-Charentes et dans les Deux-Sèvres, vous avez le même problème qu'ailleurs, enfin vous avez connu le même problème avec le retraitement des paysages, le défrichement, les remembrements, qui n'étaient pas uniquement agricoles, mais qui étaient faits aussi pour des voies de circulation. Et aujourd'hui, il y a le phénomène inverse. Alors, il y a une époque, entre autres sur le remembrement agricole, les agriculteurs avaient une prime à la surface agricole utilisée, labourée par exemple, la dimension des champs. Et aujourd'hui, on leur donne une prime de verdissement, en quelque sorte, sur les haies.
Donc là, je pense que vous voulez parler des dispositifs de prime dans le cadre de la politique agricole commune.
Oui.
Où effectivement, on se rend compte notamment que l'arbre et la haie, ce n'est pas qu'une gêne, ça apporte aussi une réponse, là où la technique et la chimie, des fois, arrivent en limite de leurs possibilités. Garder des haies, planter des arbres, c'est apporter une réponse à la fois à des questions de société. Quand on parle de qualité de l'eau, quand on parle de stocker le carbone pour limiter l'effet de serre, quand on parle aujourd'hui de corridors écologiques dans le cadre de la mise en œuvre de la trame verte et bleue, à partir de là, on se rend compte qu'il faut absolument que l'agriculteur y retrouve aussi son compte, parce que toutes ces haies et tous ces arbres qu'on s'approprie dans notre paysage, dans nos paysages de qualité, ils sont essentiellement propriétés et gérés par des agriculteurs.
Mais vous ne trouvez pas, François, c'est là-dessus que j'insistais quand même, que le monde fonctionne bizarrement. À une époque, on donne une prime pour la surface cultivée, et à une autre, c'est-à-dire aujourd'hui, on donne une prime pour la surface non cultivée, à savoir le plantage de haies.
Mais je dirais que les mentalités évoluent, et heureusement, l'agriculture, elle n'a pas qu'un rôle de production alimentaire. on se rend compte aussi que la biodiversité et l'environnement jouent un rôle aussi dans le fonctionnement de nos économies. Par exemple, pour la pollinisation des cultures, il n'y a plus d'insectes. Et donc, que ce soit les bandes enherbées, que ce soit les haies, ce sont des supports pour tous ces insectes qui contribuent à la pollinisation de la culture.
Mais votre association régionale est née en 89, donc il y a déjà pas mal de temps. Est-ce que vous avez joué un vrai rôle de sensibilisation auprès, alors du grand public, ça c'est vrai, mais auprès des professionnels et en particulier des agriculteurs ?
Alors, on continue toujours à informer, sensibiliser, et qu'effectivement, il est pratique de discuter de ce sujet avec des personnes qui sont déjà acquises à cette cause-là. C'est sympa, mais ça ne fait pas forcément avancer les choses. Donc nous, à Promé, on essaie vraiment de discuter avec ceux qui ne sont pas franchement convaincus de l'utilité de la haie. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, de tous les jours, et oui, on y arrive.
Qui sont les derniers résistants à la promotion de la haie aujourd'hui ?
Alors, ben, je dirais qu'il y a des productions agricoles qui sont moins sensibles à la présence d'arbres et de haies. On pense notamment aux grandes cultures, à la céréaliculture.
Ouais. Et vous, par PromHaie, vous faites un énorme travail, non seulement de sensibilisation, mais de conseils techniques, oui, d'accompagnement au projet de plantation avec les collectivités, et vous avez participé à la mise en terre de plus d'un million de plants.
Oui.
C'est impressionnant.
Comme vous l'avez précisé, ça a demandé 20 ans de travail, et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que Promé, on accompagne la plantation, on mobilise, on suscite les projets, parce que ces arbres, on les met chez les autres. Et on les plante en plus pour demain. Les arbres de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut les planter.
Vous transformez le paysage ?
Oui, il y a des haies qu'on a plantées. Maintenant, on les voit sur photographie aérienne. Vous savez, quand on va sur Google Earth, et il y a des endroits où on voit les haies pousser. Alors, bien évidemment, ça dépend des capacités du sol. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'utiliser des espèces qui sont adaptées au territoire où on plante, sur lequel on plante. Et puis, de faire ça soigneusement. On travaille sur de la matière vivante. Et quand vous avez terminé votre chantier de plantation, je dirais que c'est là où il est le plus vilain. Parce que vous avez un terrain labouré, avec de la paille dessus, et puis des petites branchettes qui émergent. Donc là, c'est-à-dire qu'il va falloir l'accompagner jusqu'à sa maturité.
Bravo pour les actions que vous menez donc depuis plus de 20 ans. Alors, à notre page, vous avez trouvé évidemment l'adresse du site promhaie.net et aussi celui de l'Association française des arbres et haies champêtres qui propose un dispositif de protection des haies, le BSC, c'est-à-dire l'espace boisé classé, qui intéresse aussi les collectivités parce que c'est justement pour limiter les dégradations des environnements végétalisés. Merci beaucoup Françoise Cyr.
Merci à vous.
Bonne journée. Au revoir. Vincent Jamonneau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vincent Jamonneau, J-A-M, Jardin Alternatif Maraîchage. C'était bien trouvé pour le nom de la société ?
Bah, disons que c'est aussi mon surnom, donc ça correspondait bien.
Ouais. Une société que vous avez créée à Châtillon-sur-Thouet, près de Parthenay, avec quand même un drôle de parcours, parce que vous avez fait un BTS de tourisme avant de vous attaquer au maraîchage bio.
Oui, tout à fait. Mais c'est les voies d'une carrière professionnelle. J'étais orienté vers le tourisme, mais j'étais déjà très intéressé à toutes les problématiques environnementales.
Ouais. Alors, créer une société avec des jardins, ça veut dire des espaces, de la terre. Toujours les mêmes questions, l'accès au foncier, les moyens, est-ce qu'on est aidé, est-ce qu'il y en a besoin de beaucoup, avant de parler de la technique que vous utilisez.
Ouais, alors mon cas pour moi est un petit peu particulier, donc j'ai pas suivi de formation spécifique agricole, donc j'ai pas le droit aux aides à l'installation. Et puis mon vécu familial, je suis maintenant orphelin et donc j'ai hérité des terres, donc j'ai pas eu cette contrainte qui est vraiment très importante pour les jeunes qui s'installent actuellement.
Ça peut aider effectivement et faciliter le parcours. Et alors la technique, Vincent, c'est la fameuse technique du BRF, du bois raméal fragmenté.
Du bois jaune, vert, vivant, quoi, on va dire, fragmenté et épandu sur le sol ou incorporé avec les premiers centimètres du sol. Le meilleur milieu terrestre sur Terre pour les cultures, c'est celui des forêts. Le meilleur sol, c'est celui des forêts. équilibrant en humus, riche, plein de vie, quoi.
Ouais. Ça paraît comme ça évident, c'est-à-dire on a du bois vert, vous êtes dans une région de haies, de forêts, le bois raméal fragmenté qui était lancé au Québec et qui est arrivé en France avec Jacky Dupétit, entre autres, qu'on salue au passage, parce que c'était un de nos premiers interlocuteurs dans les carnets de campagne il y a quelques années, ça fait de plus en plus émule. Et c'est une évidence, un minimum d'eau, pas d'intrants, une qualité de la production indiscutable, tout va bien.
Mais tout va bien. En plus, si on y rajoute que ce BRF est accompagné d'un non-travail du sol, ça veut dire aussi des besoins en équipement lourd, notamment, qui n'existent pas, contrairement à d'autres professions agricoles, quoi.
C'est-à-dire on ne retourne pas la terre?
Non, là, voilà, le sol, il est recouvert, on l'alimente en matière végétale ou en BRF assez régulièrement, en engrais vert, et on n'y touche plus. Le but est de ne pas détruire la vie du sol, puisqu'on essaye de la stimuler. Et donc, quand on voit que, par exemple, un labour à 40 cm détruit 80% de la vie du sol, ensuite, il faut la recréer. Alors, souvent, maintenant, on utilise la chimie. Mais si on ne travaille plus le sol et qu'en plus, on lui apporte régulièrement de quoi le nourrir, il se porte en bonne santé. Et s'il est en bonne santé, les plantes le sont aussi.
Et alors, cette technique, Vincent, je le découvre aussi grâce à vous, qui date de l'aube de l'humanité agricole. Cette technique n'est enseignée nulle part en France.
Mais non, comme l'étude d'ailleurs de la vie du sol. On enseigne beaucoup la conduite des plantes, la culture, quel produit leur apporter en cas de problème. Mais on oublie souvent de préciser que la base, c'est le sol. Si le sol est riche, sain, équilibré, logiquement, la plante s'en sera de même, quoi.
Alors, la société JAM, des jardins alternatifs maraîchage, consiste d'abord dans votre ferme à produire des légumes et à les vendre en circuit court. Et vous arrivez à fonctionner sur un seul hectare de maraîchage.
Pour l'instant. Donc oui, c'est possible. Avec un complément d'activité de prestation de broyage à côté, en théorie, une quarantaine de paniers semaine me suffisent pour tirer un salaire suffisant pour vivre, quoi. Voilà, donc on peut imaginer aussi que ces techniques-là, économiques et écologiques, soient vecteurs de création d'emplois. Si on veut remettre un paysan par hectare, on va créer beaucoup de travail.
Et de votre côté, ça ne vous tente pas de créer des emplois ?
Mais il faut d'abord que je pérennise le mien. Et puis pour l'instant, c'est une technique qui demande de vouloir vivre avec le rythme de la nature. Il faut que mon site soit équilibré d'un point de vue écologique, que l'écosystème soit équilibré et que le sol soit bien structuré et bien riche pour que j'arrive à avoir des rendements qui soient bien meilleurs que du conventionnel ou même du bio, et qui s'améliorent sur le temps, contrairement à l'agriculture classique, quoi, où les sols, avec le temps et l'usage, perdent de leur qualité, le mien s'enrichit année après année.
Et puis, dernière chose, parce que c'est Charlotte qui nous avait écrit pour nous dénoncer cette façon inqualifiable de travailler aujourd'hui.
Tout à fait, oui.
Et vous proposez des paniers, mais pas comme c'est le cas souvent dans les AMAP, par adhésion, mais on est libre d'aller venir.
Avoir écouté quelques consommateurs autour de moi qui redoutaient le fait d'être obligé d'aller chaque semaine à telle heure chercher un panier de légumes. Là, j'ai instauré cette flexibilité qui est intéressante pour le client et qui, pour moi, en cas de catastrophe naturelle, d'erreur de ma part, me permet d'être flexible et de ne pas devoir acheter des légumes ailleurs pour les vendre. Quoi. Je vends ce que j'ai, exactement ce que j'ai.
JAM, J-A-M, mais vous ajoutez sur le site internet un autre JAM, celui de Vincent Jamono. Ça donne jamjam.fr.
C'est un site où on peut donc réserver aussi bien mes paniers de légumes que se renseigner sur le BRF ou me faire venir pour du broyage de branches, de déchets verts. Parce que l'avantage du BRF aussi, c'est que c'est une alternative à des déchetteries surchargées en déchets verts.
Absolument. JAM, et ben moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Vincent.
Merci.
J'aime bien aussi Tessie Verdi, à l'envers ou à l'endroit, comme vous voulez, diversité. C'est le nom d'un festival qui se déroule en biennale à Niort, en centre-ville, et qui est axé sur le développement durable. Ce festival est au croisement des sciences et des arts. Il explore le thème de la diversité humaine et des liens entre l'homme et la nature. Le programme biodivertissant, comme les organisateurs le disent, de ce festival qui a lieu cette année, ça tombe bien, du 29 juin au 1er juillet, a pris pour thématique centrale insectes et araignées. Et durant 3 jours, il y a des conférences, des spectacles qui vont suivre, parfois se rencontrer. L'édition est parrainée par Gilles Boeuf, biologiste, président du Muséum d'Histoire Naturelle. Il est entouré de spécialistes comme Christine Rollard, qui est arachnologue et qui doit avoir un site sur la toile. Je voulais vous la faire, celle-là, pour une arachnologue. Il y a des artistes de théâtre, de danse, des musiciens. Alan Stivell fait partie du programme. Et à propos des insectes, pour l'instant, plus d'un million d'espèces sont répertoriées à ce jour. Et ils jouent un rôle décisif dans la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. C'est bien de le rappeler. Tessie Verdi, du 29 juin au 1er juillet à Niort. Il y a un site, tessieverdi.fr. Je vous rappelle les cafetages en cours, l'Oise, l'Aisne et les Ardennes. Merci beaucoup. Et à Parthenay, nous rejoignons Nicolas Stouffet pour le jeu des 1 000 euros.